sur l'actualité avec Édouard Dupénoat.
Merci beaucoup et bonne journée Sébastien Duhamel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupénoat.
Il y a un peu plus de 3 heures, l'agence France Presse relayait le dernier rapport de la World Weather Attribution. La vague de chaleur qui a frappé le Sahel au début du mois d'avril, il y a une dizaine de jours, est liée au changement climatique d'origine humaine. Le Mali et le Burkina ont été particulièrement frappés. On a vu des pointes de température à près de 49 degrés, notamment dans la ville de Kaï, dans l'ouest du Mali. Tout cela survenant en plus dans les derniers jours du Ramadan. Tout cela survenant en plus avec un approvisionnement erratique en courant électrique. Les délestages ne concernent bien sûr pas que la zone sahélienne. Et c'est sur ces délestages qu'on veut vous entendre en général ce matin. À quel point vous ont-ils tracassé, touché, empêché? Et comment aussi on peut y faire face? J'aimerais d'abord qu'on appelle Johannesburg où Kadi nous attend au standard. Bonjour Kadi.
Bonjour.
Pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que cela fait des années que le pays où vous vous trouvez est confronté à des problèmes de délestage récurrents et que la compagnie Eskom, compagnie publique d'électricité, est pointée du doigt. Kadi, on écoute votre témoignage.
Ok, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait même plus comprendre vraiment si le problème se situe à quel niveau. Je pense même que les autorités elles-mêmes, elles ne savent même pas où le problème se situe. Parce que, ce que je pense qu'il se passe, c'est que ils ont laissé les machines pendant beaucoup de temps se détériorer. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de les fixer ou bien de refaire les stations du début, en fait. Recommencer les stations à zéro.
Mais alors, Kadi, avant de parler des racines du mal ou du problème, vous, au quotidien, comment ça se traduit, ces délestages fréquents? Quand est-ce que vous avez du courant? Quand est-ce que vous n'en avez pas?
En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait des niveaux, en fait. Il y avait le premier niveau, le deuxième, jusqu'au sixième niveau. Ce qui se passait, c'est que quand c'est le premier niveau, vous avez une coupure d'une heure par jour par là. Quand c'est le deuxième niveau, c'est 2 heures ou bien... Mais ce n'est pas forcément 2 heures qui se suivent. Ça peut être on coupe de 10 heures à 11 heures et puis on va couper après à 14 heures, vers 15 heures. C'était un peu ça la logique. Ça allait du premier niveau au sixième niveau.
Et vous êtes prévenu? Vous savez, quel que soit le niveau, quand est-ce que les délestages vont survenir? À quelle heure est-ce qu'il n'y aura plus d'électricité?
En tout cas, il y avait beaucoup de websites. Ce n'est même pas qu'il y avait, parce que ce n'est pas une histoire d'antan, c'est une histoire qui est encore vivante et qui va forcément revenir après les élections. Mais ce qui se passait, c'est que on sait très bien qu'à 10 heures, ça va partir, on sait que ça va revenir. Si vous êtes au stage 1, vous savez que quand ça part à 10 heures, ça revient à 11 heures. Quand ça part à 12 heures, ça va revenir à 13 heures. C'était un peu ça la logique, en fait. On est informé. En fait, tout celui qui veut s'informer peut avoir d'informations.
Et alors, ces délestages, ils ne touchent pas tous les quartiers au même moment. C'est ce que vous nous expliquez avant de passer à l'antenne.
Oui, exactement. Ce qui se passe, c'est que... Non, c'est même pas tous les quartiers. Tous les quartiers sont touchés. Mais ils ne sont pas touchés en même temps. Voilà. Même dans le même quartier où vous êtes, vous n'êtes pas touchés en même temps. Donc, ils prennent la première phase ici. Par exemple, vous pouvez être sur une même avenue. Les gens du côté droit n'ont pas d'électricité, ceux du côté gauche en ont. C'est en fait ce qu'ils essayaient de faire pour essayer de limiter la casse, pour que les gens puissent traverser l'avenue s'ils doivent charger leur téléphone. Ils ont essayé de gérer ça de manière un peu plus civilisée.
Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Il y a une solidarité qui se met en place, c'est-à-dire quand le côté droit de l'avenue n'a plus de courant, on peut éventuellement traverser la rue, se rendre du côté gauche quand on a besoin de faire fonctionner une machine, charger un téléphone, ce genre de choses.
Voilà. Il y avait cette stratégie mise en place et ça fonctionne assez bien. C'est vrai que personne n'est content de manquer de l'électricité du moment où vous êtes en train de payer. Mais qu'à cela ne tienne, ça facilite un peu la tâche. Parce que quand vous savez que, OK, quand mon téléphone est téléchargé et low bat et sans batterie, je peux traverser de l'autre côté. Je sais que quand mon bloc est sous délestage, l'autre bloc-là a de l'électricité. Vous voyez un peu,
ils
ont essayé de faire ça de cette manière-là.
Bien sûr. Et je vous remercie, Kadi, pour ce témoignage de débrouille, de solutions palliatives qu'on trouve quand l'électricité est absente de tel ou tel côté d'une rue, d'un quartier. Je rappelle que vous nous appeliez de Johannesburg. Juste avant de donner la parole à Alpha Ousmane, qui est cette fois à Conakry, la capitale guinéenne, je vous lis un témoignage que Hassan Sondé nous a écrit sur notre page Facebook. Le courant est revenu, il est à Ouagadougou, le courant est revendu à la population, 250 francs le kilowattheure, voire plus dans certains quartiers. Ce courant servi est non seulement très cher, mais il est aussi très faible. Il ne peut même pas faire fonctionner un ventilateur. Et je vous ai lu ce témoignage parce que Alpha Ousmane à Conakry nous dit quelque chose de similaire. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous nous dites les coupures, elles ont des conséquences tellement vastes dans notre vie quotidienne que je ne range même plus, je n'essaye même plus de ranger mes repas dans le réfrigérateur.
Oui, bien sûr. Comme vous constatez aujourd'hui dans la capitale guinéenne, parce qu'à l'intérieur du pays, on n'en parle même pas, mais dans la capitale guinéenne, chaque jour les déchets sont communiqués. Donc si, exemple, mon quartier gagne aujourd'hui à 18h, donc le courant part à 0h. Donc si le courant part à 0h sur moi, le quartier voisin aussi gagne et commanderait le courant de 0h à 6h du matin. La vie, c'est comme ça que nous vivons. Quand il y a des aliments dans ton congélateur, dans ton frigo, donc tu ne pourras pas conserver les aliments qu'on prépare ou bien les enzymes qu'on fabrique, tout ça là, par manque d'électricité, ça va se gâter. Même ça n'a même pas daté avant-hier. J'ai versé plus de 5 bidons de zinzimbres donc, que j'avais fabriqués pour consommer. Donc, mais par le délestage du courant électrique, je me suis tenu obligé de verser parce que le goût avait déjà changé.
Bien sûr.
La vie, c'est vraiment regrettable. Parce que non seulement l'argument que l'État est en train de placer, c'est d'après l'explosion du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum en décembre dernier. Ils ont dit que l'électricité et des NM avaient annoncé le délestage dans plusieurs villes de la Guinée au début de janvier. Mais la cause de ce délestage était le manque de carburant, d'après eux, résultant de l'incendie du dépôt principal d'hydrocarbures de Kaloum. Bien que le gouvernement ait tenté de rassurer la population quant à la fourniture d'électricité, mais plus de 4 mois, mon cher ami, après l'explosion, les Guinéens s'interrogent sur les véritables causes de délestage d'électricité à Conakry.
Il faut rappeler aussi que bon, certains accidents, certains incidents sont venus se surajouter à cette explosion du dépôt de Kaloum. Il y a eu plusieurs incendies dans une centrale, dans un dépôt de matériel électrique. Ça a été sans doute la cause principale des délestages très nombreux depuis la fin de l'année dernière. Mais d'autres incidents et accidents sont venus se surajouter.
Oui, bien sûr, ça n'a même pas daté longtemps, ça n'a même pas fait un mois, alhamdoulaye, là où il y avait le matériel de EDG, en privé, il y a des transports qui explosent, même à côté de moi ici, les hautes tensions, et puis à un moment, il y a une file de haute tension qui est coupée ici par l'explosion. Vous avez vu tout ça là, c'est vraiment regrettable, il faut que l'État prenne les responsabilités. Vous savez, c'est hors de question, au XXIe siècle, un État commanderait sérieux, qu'on n'a pas le courant, vu les potentialités qu'on a, les ressources naturelles qu'on a, on devrait avoir le courant suffisamment. Parce que vu que les barrages hydroélectriques qu'on a, quand vous prenez aujourd'hui le plus grand barrage hydroélectrique, soit petit, qui est à 450 MW, donc qui devrait fournir l'ensemble du pays, du territoire national, et pourquoi pas vendre ailleurs le courant électrique.
Alors effectivement, je vais redonner un chiffre. C'est l'ancien ministre guinéen de la coopération internationale qui l'avait dévoilé il y a quelques mois lors d'une conférence de presse. La Guinée a un potentiel hydroélectrique énorme puisqu'elle pourrait produire jusqu'à 6000 mégawatts grâce à cette énergie. Ça pourrait être l'une des pistes de solution. On va en évoquer une autre avec Souleymane qui nous attend à Bamako, capitale malienne. Bonjour Souleymane.
Allô ?
Allô, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Merci de votre fidélité de nous avoir appelé de Bamako, où il est 8h49. On parlait des solutions éventuellement hydroélectriques pour la Guinée. Vous aviez une autre piste que vous souhaitiez évoquer, vous, pour le Mali ?
Tout à fait. Surtout, je voulais dire que l'État pourrait subventionner, par exemple, les panneaux solaires. Par exemple, chez moi-même, j'ai des panneaux solaires qui me permettent quand même d'avoir de la lumière et de faire fonctionner des petits ventilateurs. Et ça, c'est une situation qui m'arrange un peu, même si je ne peux pas prendre évidemment le frigo ou la climatisation. Mais si l'État subventionnait les panneaux solaires, ça permettrait à beaucoup de Maliens de se rabattre sur l'énergie solaire. Cela réduirait la charge de l'EDM énergie du Mali.
Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que vous dites que vous en avez vos voisins, vos proches autour de vous dans votre quartier, c'est une solution qui permet de pallier les délestages et de recevoir du courant malgré tout ?
Tout à fait. Bon, certains en ont, mais pas beaucoup. Parce que réellement, le problème de l'énergie solaire, c'est que c'est cher à l'investissement. Par exemple, moi j'ai 6 panneaux et 6 batteries, mais ça me permet seulement d'avoir la lumière et les petits ventilos. Je n'ai même pas le frigo, donc je ne peux pas garder de la nourriture dans le frigo.
C'est-à-dire que voilà. ça ne permet pas de faire tourner votre réfrigérateur.
Négatif, voilà.
D'accord.
Et surtout aussi, ça ne me permet pas, par exemple, même de brancher des appareils un peu plus lourds pour travailler, par exemple l'ordinateur et les autres, je ne peux pas. Mmh. Donc les panneaux, c'est une solution peut-être temporaire, en attendant que l'EDM ait suffisamment de charge pour répandre tout le monde, ou alors vraiment continuer avec le solaire, parce que ce n'est pas le soleil qui manque dans le pays. Moi, je pense que nos dirigeants ont tout simplement manqué de vision. Sinon, l'Afrique aurait dû aller sur le solaire depuis des années déjà. Cela nous aurait évité la situation actuelle. C'est ce que je pense. Bon, pour le Mali aussi, je crois que l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, cela permettrait peut-être à l'énergie d'avoir des mégawatts supplémentaires et à moindre coût. Et cela permettrait aussi de résoudre le problème.
Alors, l'actualité nous donne aussi un exemple tout récent, avec cette visite d'un ministre, du ministre nigérien, qui annonce que le Niger va fournir plusieurs dizaines de millions de barils de pétrole pour faire tourner les centrales. Et on élargit un peu la question. Une meilleure coopération entre les États voisins, ça pourrait faire partie de la solution, à vos yeux, Souleymane ?
Oui, c'est une partie de la solution. Mais pour moi, le thermique, vraiment, il faut que nous sortions du thermique.
Bien
il faut
sûr.
Que nous sortions d'énergie thermique. Voilà, le carburant, le Niger va le fournir, mais pendant combien de temps ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Souleymane, de nous avoir appelé de Bamako, la capitale malienne. J'aimerais maintenant qu'on rejoigne le Tchad, la ville de Bongor, à 250 km peu ou prou de N'Djamena. C'est Eric qui est en ligne avec nous. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Edouard.
Vous souhaitiez, alors on a beaucoup entendu avec les auditeurs précédents les problèmes quotidiens que pose le manque d'électricité. On ne peut pas faire tourner un réfrigérateur, on a du mal à faire recharger ses appareils. Vous aviez un autre problème dont vous souhaitiez nous faire part.
Oui, moi je crois que le problème de délestage au Tchad, c'est un manque de volonté des dirigeants. Parce que même le carburant du Tchad, le Tchad produit du carburant, mais on ne peut pas avoir ce carburant. Ce carburant part plutôt vers les pays voisins. Et il paraît même que ça part en France. Je crois qu'avec ce carburant, si seulement pour le Tchad, on allait bien gérer ces délestages. Parce que la plupart de la lumière qu'on trouve au Tchad, c'est les groupes électrogènes. Donc ces groupes électrogènes utilisent le carburant. Et quand il n'y a pas de carburant, il n'y a pas aussi d'électricité. Par exemple, dans la ville de Bongor, depuis 0h jusqu'à l'heure, il n'y a pas de lumière.
Actuellement, là, vous rencontrez des délestages fréquents ?
Depuis 0h jusqu'à l'heure, là,
D'accord, je vous avais mal entendu. Depuis le début de la nuit, en fait.
Oui, jusqu'à cette heure-ci, il n'y a pas de lumière.
D'accord.
Tantôt, on va dire que c'est le groupe qui en panne, tantôt, il n'y a pas de carburant, et on est là comme ça. En Djamena, par exemple, il y a des quartiers qui ont fait un mois sans électricité, alors que dans d'autres quartiers... ils ont de la lumière tous les jours.
Et est-ce que vous avez vu vous-même, est-ce que vous avez constaté des solutions palliatives qui se sont mises en place ?
Non, bon, on n'aura pas constaté, mais il faudrait que ce pétrole qu'on exploite au Tchad puisse être utilisé localement, pas que ce pétrole puisse encore voyager pour d'autres pays et laisser le Tchad sans carburant. Si ce carburant pouvait servir que le Tchad, je crois que ce problème de délestage, il y en aura moins. Alors, il y a aussi le problème de vétusté des groupes électrogènes aussi.
D'accord.
Actuellement, le DG de la SNE dit qu'il a 10 groupes, mais les deux sont gâtés. Il reste que deux. Bon, vous imaginez, N'Djamena avec deux groupes électrogènes, plus la centrale de Djarmaya. Moi, je crois que la solution n'est pas encore... d'ici la fin de cette année.
On entend votre frustration. Merci beaucoup, Eric, de nous avoir appelé au 339-693-693-70. Le témoignage suivant nous vient de Centrafrique et de sa capitale, Bangui. Charlie est au standard. Bonjour, Charlie.
Oui, bonjour, Edouard, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous aviez un terme assez fataliste en préparant cette émission avec les équipes d'appel sur l'actualité. La situation en Centrafrique est catastrophique, disiez-vous.
Oui, Le problème d'électricité et de l'eau sont devenus vraiment de véritables casse-têtes, monsieur Edouard. Vous savez, depuis plus de 4 ou 5 jours comme ça, nous n'avons même pas de l'électricité chez nous ici dans notre quartier de Galabadia Sinistri. Et cela affecte vraiment beaucoup le quotidien de toutes ces populations ici, monsieur Edouard.
Alors, je me permets de lire un témoignage que David Thiou nous a écrit de Lomé, la capitale togolaise. Il nous dit, d'une part, il faut former les jeunes en fabrication et en montage de panneaux et d'électricité solaire, parce que les lampadaires solaires peuvent rester une solution pour les délestages. À Lomé, par exemple, dans beaucoup de maisons, il y a de ces lampadaires solaires qui sont, pour beaucoup de Togolais, une source fiable d'électricité. Est-ce que c'est une solution que vous constatez ou qui vous paraît envisageable ?
Oui, monsieur Edouard. Vous savez, le gouvernement vient à peine, hein, dernier moment-là, de faire l'inauguration des centrales hydro, de panneaux solaires de PK26, route de Boali, là. Mm-hmm. Et on nous a dit que voilà, le problème de courant là sera vraiment diminué. Mais on ne voit que ce problème-là encore devant de pire, monsieur Edouard. Et vraiment, on n'arrive pas à s'en sortir. Même à l'heure où je vous parle là, depuis plus de 20 ou 25 minutes, RFI n'aimait pas. Vous voyez, à cause de l'état de l'électricité. Ça affecte beaucoup. Moi-même qui vous parle là, je travaille. Je n'arrive pas à charger même mon ordinateur ici au bureau pour pouvoir travailler. On ne travaille même pas. Puisqu'il n'y a pas lumière là, on ne peut pas, charger nos ordinateurs et nos appareils pour pouvoir bien fonctionner. Et ça affecte beaucoup. Même ceux qui font des soudeurs, et etc. Là. Vous voyez ?
Oui, bien sûr, que ça affecte toute l'activité économique. C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, ça paralyse toutes les activités économiques, M. Edouard. Mmh. Voyez-vous ? Donc, vraiment, je demande au gouvernement vraiment de faire un effort à cela, vraiment, à travers le ministère de l'énergie, là, vraiment, de trouver vraiment une solution à ça. Sinon, ça ne sera pas possible, monsieur Edouard.
Faire des efforts sur l'approvisionnement électrique. Merci beaucoup, Charlie. C'est aussi ce que Daouda à Ouagadougou nous disait avant cette antenne. Bonjour, Daouda.
Bonjour, monsieur.
On doit développer notre propre énergie. On doit pouvoir être complètement autonome. C'est votre avis ?
Absolument. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina utilise des groupes thermiques et hydroélectriques. Mmh. Et le premier responsable de la nationale et de l'électricité a expliqué que les groupes thermiques et hydroélectriques datent de 19 à 25 ans. Et il y a eu un manque d'investissement pour renouveler ces machines. Aujourd'hui, on mise beaucoup plus sur le solaire. Alors que le solaire aussi a des limites. Non seulement ça coûte cher, et ça couvre peu de capacité.
Alors, ça...
Il y a une centrale solaire de 25 MW qu'on a démarré la construction tout dernièrement, aux abords de Ouagadougou. Mais je me dis quand même que même le solaire, ça va être très compliqué, parce que non seulement ça coûte très cher, et puis ses capacités sont moindres.
Mais
maintenant, bon, on avait aussi prévu le nucléaire, mais je sais que ça, c'est à long terme. Ça, c'est des trucs qui peuvent prendre 10 ans en partant, ça, c'est à long terme. Mais aujourd'hui, on compte beaucoup plus sur le thermique et l'hydroélectrique, alors que les thermiques, non seulement les machines sont vieilles, ça, c'est un, puis deuxièmement, le fioul qui est importé coûte très cher. Ça fait que le kilowattheure coûte très cher.
Daouda, vous dites, alors le solaire coûte peut-être cher à installer, mais arrêtez-moi si je me trompe, la ressource solaire est extrêmement abondante et infinie.
Oui, oui.
Ça...
Elle est rentable. Elle est rentable dès qu'on finit de l'installer. Mmh. Mais c'est de faible capacité. Comme le disait un de vos auditeurs, par exemple, l'investissement que vous allez mettre et la couverture, c'est moindre. Donc ça coûte très cher, absolument. Maintenant, moi, je pense que l'avenir, c'est le nucléaire. Mais le nucléaire, c'est sur des dizaines d'années.
Et l'actualité de ces dernières années, on a donné des exemples tragiques. Ça pose des questions de sécurité assez fortes, notamment pour le refroidissement des centrales. Merci beaucoup, Daouda, pour votre témoignage. Je présente aussi mes excuses à patients qui nous attendaient à Lubumbashi. On aurait pu parler avec vous de la privatisation des secteurs de l'électricité, aussi vaste sujet qui mériterait une émission à part entière. On est obligé de s'arrêter là. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Priorité santé dans 10 minutes.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Priorité santé, ce sera avec vous. Bonjour Raphaël Constant.
Bonjour Edouard. Aujourd'hui, nous, on va parler de la dengue, cette maladie tropicale transmise par le moustique tigre. Habituellement bénigne, la forme dite hémorragique est par contre beaucoup plus dangereuse, voire mortelle dans certains cas. Et plusieurs territoires sont actuellement confrontés à une épidémie. Brésil, Guyane, Caraïbes ou encore Burkina Faso. Alors nous, on va se pencher sur les symptômes, les moyens de se prévenir et de soigner cette maladie. C'est dans 10 minutes, juste après le journal. À tout de suite.